Les États-Unis commencent déjà à menacer le Mali. L'ambassade des États-Unis au Mali a mis en garde ses ressortissants contre une éventuelle attaque terroriste visant les bureaux du gouvernement malien, l'aéroport ou les lieux fréquentés par les Occidentaux, ainsi que les installations diplomatiques, les hôtels et les restaurants. Dans une note publiée donc sur sa page officielle Facebook, la représentation diplomatique des États-Unis a informé les citoyens américains qu'une attaque terroriste à Bamako pourrait être planifiée contre les bureaux du gouvernement malien, l'aéroport et ou les lieux fréquentés par les Occidentaux, y compris les installations diplomatiques, les hôtels et les restaurants. Elle annonce avoir pris les mesures supplémentaires suivantes, donc en réponse aux menaces persistantes à la sécurité. L'instauration d'un couvre-feu pour les employés de l'ambassade de 23h à 5h du matin tous les jours et la limitation des déplacements des employés à Bamako. L'ambassade des États-Unis à Bamako a recommandé donc en outre à ses ressortissants de faire preuve de vigilance pendant leur séjour au Mali. Le 20 novembre 2015, une attaque terroriste contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako, revendiqué par Al-Mourabitoun, groupe terroriste affilié à Al-Qaïda et à ACMI, avait fait 27 morts parmi les clients étrangers et 3 parmi les assaillants. Cela dit, ce n'est pas la première fois que les États-Unis procèdent de cette manière pour menacer un pays ouvertement. En février 2020, le Kenya était également dans le collimateur de Washington avec le même modus operandi. L'ambassade donc des États-Unis au Kenya avait mis en garde contre une attaque terroriste dans un grand hôtel de la capitale Nairobi, bien que l'hôtel exact n'avait pas été identifié à ce moment-là. Dans une alerte de sécurité, l'ambassade avait également donc déclaré que des groupes terroristes pourraient préparer un attentat sur une cible populaire auprès des touristes et des voyageurs d'affaires. L'alerte a fait craindre donc une répétition de l'attaque terroriste de janvier 2019 lorsque des terroristes d'Al-Shabaab avaient pris d'assaut l'hôtel et le complexe d'affaires du site D2 et tué au moins 21 personnes. Les États-Unis ont exhorté leurs citoyens à faire preuve d'une vigilance accrue lorsqu'ils visitent ou séjournent dans des hôtels de la région de Nairobi. Le chef de la police kényane avait déclaré qu'ils avaient renforcé le déploiement de la police dans la ville et la surveillance des frontières, mais a averti le public d'être extra vigilant. Même scénario, donc maintenant, donc pour le Mali, les offensives et les ingérences de Washington se multiplient dans le pays. Ce même mode opératoire montre encore une fois les liens qu'entretient Washington et les groupes terroristes qui sont présents dans le monde et particulièrement au Sahel. Évidemment, plus personne n'est dupe. En République démocratique du Congo, plusieurs milliers de personnes ont manifesté mercredi à Goma, à la frontière avec le Rwanda, dans l'est de la RDC, pour dénoncer l'agression rwandaise et exprimer leur soutien à l'armée congolaise dans un contexte de tension maximale entre Kinshasa et Kigali. Dès le matin, dans une ambiance très tendue, les manifestants, donc des jeunes hommes surtout, se sont dirigés en courant en deux groupes vers la frontière, à la petite barrière et la grande barrière qui séparent la RDC du Rwanda, en scandant des slogans donc hostiles à ce pays et à son président Paul Kagame. Nous ne voulons plus des Rwandais, laissez-nous aller affronter Kagame chez lui, criaient les manifestants. De plus en plus nombreux au fil de la matinée, ils ont été dispersés par la police alors qu'ils tentaient de forcer le passage vers le Rwanda. Nous manifestons donc contre l'incursion des rebelles M23 en RDC. Nous demandons au gouvernement de nous doter de tenues militaires et d'armes pour aller nous battre contre l'armée rwandaise, a déclaré un manifestant. Mardi, dans la capitale Kinshasa, quelques milliers de personnes avaient de nouveau manifesté pour demander la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, accusé donc de soutenir la rébellion du M23 et appeler le président congolais Félix Tshisekedi à sortir de son silence. Depuis fin mai, des rassemblements sont organisés pour réclamer le départ de l'ambassadeur du Rwanda, Vincent Karega, qui avait été récemment convoqué pour recevoir une mise en garde sévère des autorités congolaises. Dès le 28 mai, Kinshasa avait aussi annoncé la suspension des vols de la compagnie aérienne Rwandair sur son territoire pour protester contre le soutien de Kigali au M23. Mardi soir, le gouvernement congolais a haussé le ton, condamnant dans un communiqué la participation des autorités rwandaises dans le soutien, le financement et l'armement de cette rébellion et promettant de défendre chaque centimètre de son territoire. Lundi, la localité congolaise de Bunagana, un centre d'échanges commerciaux situé à la frontière ougandaise, est tombée entre les mains de ces rebelles et l'armée congolaise a accusé le Rwanda d'invasion de son territoire. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé donc ce 15 juin, mercredi, la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie au président de deux chambres du Parlement. C'est la deuxième réunion du genre depuis les hostilités déclenchées par la rébellion du M23 dans l'est du pays avec le soutien du Rwanda. Le gouvernement congolais a réaffirmé sa détermination à défendre l'intégrité de son territoire et déploré comme toujours l'attitude du Rwanda qui est une stratégie de troubler la paix et la quiétude des populations congolaises. Cet acte constitue une énième agression et une violation délibérée de l'intégrité territoriale de la RDC. Cette attitude belliqueuse du Rwanda procède d'une stratégie annoncée et programmée de troubler une nouvelle fois la paix et perturber la quiétude de nos paisibles et innocentes populations. La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire, dit le compte-rendu du Conseil supérieur de la défense. Ainsi, Kinshasa exige au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais, au gouvernement de la RDC de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Il y a un an, la RDC et le Rwanda ont signé à Goma, donc dans le Nord Kivu, des accords portant notamment sur la raffinerie de l'or congolais par Kigali et plusieurs voix s'élèvent en RDC pour demander la fin de ces accords. La rébellion vaincue en 2013 par Kinshasa, le M23 a repris les armes fin 2021 en reprochant aux autorités congolaises de ne pas avoir respecté un accord pour la démobilisation et la réinsertion de ces éléments. Les combats se sont intensifiés ces dernières semaines et Kinshasa a clairement accusé Kigali de soutenir cette rébellion. Depuis plusieurs semaines, des manifestations sont organisées en RDC pour demander la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Concernant le conflit RDC-Rwanda, les États-Unis ont fini par prendre position dans la crise qui oppose le Rwanda et la République démocratique du Congo. Dans une déclaration dans laquelle il dit être foncièrement préoccupé par la situation, Washington a accusé Kigali de soutenir l'avancée des rebelles du M23. Nous sommes extrêmement préoccupés par les récents combats dans l'est de la RDC et par la présence signalée de forces rwandaises sur le territoire du pays, a déclaré ce mercredi la représentation diplomatique des États-Unis à Kinshasa. Les comportements provocateurs et les propos incendiaires doivent cesser. De telles actions augmentent le risque de violence et de destruction dans l'est du Congo et nuisent à tous les habitants de la région, a-t-elle poursuivi. Condamnant la prise de la cité de Bunagana par les rebelles du M23 dans l'est de la RDC, près de la frontière avec l'Ouganda, la Commission des affaires étrangères du Sénat américain donc affirme que le soutien rwandais aux rebelles du M23 qui attaquent les civils, les casques bleus de l'ONU et les FARC, donc les forces armées congolaises, dans l'est de la RDC, est inacceptable. Elle a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU, la mission onusienne en RDC, le département d'État américain, à enquêter immédiatement. Mardi, la RDC a réuni les diplomates des pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, accrédités à Kinshasa, et leur a fait part de la prise de la ville de Bunagana près de la frontière avec l'Ouganda par les rebelles du M23. Le représentant diplomatique de Moscou à cette réunion a déclaré que la Russie soutenait Kinshasa dans les efforts de trouver la solution qui pourrait maîtriser la situation dans l'est de la RDC et dans la région en général. La RDC accuse le Rwanda de soutenir militairement les rebelles du M23, mais Kigali récuse toutes les accusations de Kinshasa et la situation reste tendue malgré les appels de l'Union africaine et celle de l'ONU à la cessation donc des violences et à une entame donc du dialogue pour une résolution pacifique de la crise. L'offensive rwandaise du M23 RDC annonce l'entrée de jeu de la coalition militaire Union européenne OTAN AFRICOM en Afrique des Grands Lacs. En 2015, pour rappel, les USA, le Vatican et l'Union européenne, dont la France et la Belgique, soutenues par le Rwanda, avaient tenté un changement de régime au Burundi par coup d'État militaire appuyé par le réseau de l'ancien dictateur Muhima Burundais Buyoya Pierre. Souhaitant, entre autres, contrer le projet de la Chine de la route de la soie dans cette Afrique des Grands Lacs, notamment la route Dar es Salaam en Tanzanie et le Katanga en RDC, mais ce fut un échec. Le mardi 10 mai 2022 à Abuja au Nigeria, la CDAO a annoncé une collaboration avec l'OTAN, alors que pour le Mali, cette force serait responsable de la déstabilisation en cours du Sahel. Pour rappel, en 2011, la coalition OTAN-AFRICOM avait détruit la Libye, dont feu Kadhafi, leader panafricaniste, donc financier depuis 2002, du projet de défense africaine, soit l'African Standby Force. Cette coalition militaire occidentale OTAN-AFRICOM, portée haut et fort par la France et les USA, venait de porter un coup dommageable à l'initiative de la naissance de l'armée africaine ASF, ayant vocation à défendre l'Afrique. Au même moment, l'Union africaine, qui grâce à feu Kadhafi et à l'Algérie était devenue quasi indépendante financièrement, est retombée dans la totale dépendance financière des anciennes puissances coloniales occidentales à travers l'Union européenne. Ainsi, l'UE, donc dès 2004, lançait African Peace Facility, un programme prévu pour financer à hauteur de 3,5 milliards d'euros un projet de défense africaine européen en vue de contrer l'ASF de feu Kadhafi et feu Mandela, faisant découvrir que la politique européenne de sécurité et de défense repose essentiellement sur l'OTAN, c'est-à-dire une galaxie des États-Unis visant à contrer l'influence russe, chinoise ou encore iranienne en Afrique. Ce dimanche, Félix Tshisekedi, le président de la RDC, a affirmé dans les médias que la rébellion M23, relancée ces derniers jours dans son pays, était soutenue par le Rwanda. L'offensive rwandaise, donc du M23 en RDC, fait partie de la stratégie de déstabilisation et de balkanisation de la RDC mise en place par la coalition Union européenne OTAN-AFRICOM en vue de contrer les influences du bloc de l'Est dans cette région africaine. Pourquoi l'idée d'envoyer une force africaine, comme par exemple l'ASF, pour aider la RDC ou le Mali n'est pas encore évoquée. Au sommet de l'Union africaine à Durban en 2002, l'ASF était née car les dirigeants africains présents avaient vu la nécessité primordiale de défendre les intérêts économiques de l'Afrique face aux prédateurs occidentaux qui commençaient à s'installer donc depuis 1996 en Afrique des forces armées du type néocolonial telles pour les USA, l'ACRI qui devenait ACOTA puis AFRICOM ou RECAMP, projet onusien porté par le ministère de la Défense de la France. Il n'était pas question pour l'Afrique de revivre une deuxième colonisation. L'ASF prit son essor jusqu'en 2011 où la coalition Union européenne-OTAN-Afrique finissait de détruire feu Kadhafi, financier de l'initiative. De plus, l'Union européenne, avec son African Peace Facility, boosté par la France et les États-Unis, à travers des missions onusiennes de forces de paix, donc en Centrafrique, en Somalie, au Soudan, au Mali, en Haïti, en Côte d'Ivoire, etc., ont endormi, donc avec l'argent de nombreuses armées des pays africains de tradition guerrière, devenant peu à peu des armées au service de la coalition Union européenne OTAN-AFRICOM, ennemie de l'Afrique. Donc aujourd'hui, la coalition Union européenne OTAN-AFRICOM projette ensuite un changement de régime politique en Afrique et dans la région de l'Afrique centrale. Mais les coalitions militaires africaines se mettent tout de même en place et cette nouvelle guerre entre la RDC et le Rwanda, créée de toutes pièces par des puissances occidentales, sert justement à saper ces alliances. Ce mercredi, le président kényan Uhuru Kenyatta a appelé à l'activation de la force régionale de l'Afrique de l'Est pour pacifier l'Est de la RDC. Le président en exercice de la communauté donc des pays d'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta, donc président du Kenya, se dit préoccupé par le dernier développement des hostilités dans l'Est de la RDC, en particulier dans le territoire de Rutshuru, dans le nord Kivu. Il appelle à l'activation de la force régionale de l'Afrique de l'Est sous les auspices de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et cette force sera déployée dans les trois provinces de l'Est de la RDC, donc en Ituri, au nord Kivu et sud Kivu, qui doivent être déclarées zones exemptes d'armes. La force régionale de l'Afrique de l'Est va travailler en collaboration avec l'armée congolaise ainsi que les autorités locales afin de soutenir le processus de démobilisation. Par la même occasion, le président Kenyatta annonce que la réunion des commandants régionaux des forces de défense respectives coopérant au processus de Nairobi prévu le dimanche 19 juin à Nairobi devrait finaliser les préparatifs pour entreprendre le déploiement de cette force régionale. Il a aussi appelé tous les groupes armés nationaux et étrangers présents en RDC à déposer les armes immédiatement et sans condition afin de rejoindre le processus de paix. Une force armée régionale et même continentale reste le moyen incontournable pour mettre fin au fléau du terrorisme, mais également pour empêcher les conflits entre les pays du continent et montrer par la même occasion que l'Afrique n'a pas besoin des interventions militaires des Occidentaux sur le continent africain.
En RDC, les recettes fiscales plafonnent à 2,4 milliards de dollars en moins de 5 mois. La Direction générale des impôts DGI, principale régie financière en République démocratique du Congo RDC, a mobilisé 2,4 milliards de dollars à la date du 13 mai 2022, soit sur une période de moins de 5 mois. Ce montant, qui constitue un record considérable réalisé dans la mobilisation des recettes publiques cette année, est estimé à 71% de ses assignations financières annuelles. Selon les données de la Banque centrale du Congo, la Direction générale des impôts a en effet mobilisé plus de 2,4 milliards de dollars de recettes en moins de 5 mois. Au Mali, l'État lève 50 milliards de francs CFA pour la construction d'une cimenterie. Le Mali va injecter 50 milliards de francs CFA pour la construction d'une nouvelle usine de fabrication de ciment dans le pays, rapporte le site spécialisé en économie Sika Finance. L'usine sera construite sur une superficie de 14 hectares et produira 800 000 tonnes par année selon la même source. Elle va également permettre la réduction de l'importation du ciment. Le Mali ne couvre que 50% de ses besoins en ciment. Il est estimé à 3 millions de tonnes par an selon les chiffres officiels. La livraison de la cimenterie est prévue d'ici 3 ans. Le Cameroun porte à 40 milliards de francs CFA le budget dédié au soutien des prix. En janvier dernier, l'indice FAO des huiles végétales a atteint son plus haut historique dans le sillage de la plupart des matières premières alimentaires, un contexte qui contraint le Cameroun à revoir à la hausse son plan de soutien initial. Dans l'ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances 2022 en ratification au Parlement, la provision destinée au soutien des prix des produits de première nécessité est portée à 40 milliards de francs CFA, soit quasiment le triple des 15 milliards prévus dans la loi de finances initiale. Le gouvernement explique que cette augmentation vise à lutter contre l'inflation. En vue de stabiliser le niveau général des prix, l'Institut national de la statistique a suggéré au gouvernement dans un rapport publié en mai dernier de mettre en œuvre des mesures additionnelles de soutien aux entreprises et aux ménages à la fois globales et ciblées. Au Nigeria, le gouvernement approuve le financement de plusieurs projets de transport routier et aérien. Les réformes dans le secteur aéroportuaire se poursuivent au Nigeria, avec à la clé des plans d'investissement en vue de la modernisation des infrastructures et installations pour accompagner l'essor que connaît cette industrie depuis quelques années. Le Conseil exécutif fédéral du Nigeria, à l'issue de la réunion du cabinet tenu le mercredi 15 mai, a approuvé un financement de 80,9 milliards de Naira en faveur de plusieurs projets de transport portant notamment sur la réalisation d'infrastructures routières et le renouvellement des équipements de certains aéroports.